Ce qui apparaît et qui domine dans les textes que nous venons de lire, c'est que Dieu aime tous les hommes, quelle que soit leur race et leur nation. Isaïe proclamait déjà que Dieu était le Dieu non seulement des Juifs, mais de tous les peuples. Il voyait la maison de Dieu à Jérusalem comme une maison de prière pour tous les peuples. Mais ce texte de Matthieu nous oblige une certaine réflexion pour le comprendre. Parce qu'en première lecture, on découvre un Jésus inhabituel. Il se cache. Il est même surprenant dans son attitude, par ses silences. Déroutant dans ses paroles, il rabroue. Il donne d'ailleurs la douloureuse impression de ne pas vouloir répondre à une prière, à un appel de détresse. Pourtant, dans ce qu'on peut lire par ailleurs, dans la parole, nous le voyons toujours avec une patience inépuisable, compatissant, guérissant les foules qui viennent à lui, rempli d'amour envers ceux qui le cherchent et qui ont besoin de lui. Alors qu'ici, nous sommes obligés de constater que dans un premier temps, il ne répond pas. Ensuite, il répond qu'il n'est envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Et enfin, qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. Trois refus. Trois obstacles, à première vue, infranchissables. En voilà plus qu'il n'en faudrait pour décourager une âme ordinaire. Mais si le doute et le désespoir abordent le cœur de cette mère, il n'y trouve pas accès. Car cette Cananéenne marche par la foi et non par la vue. Avec certitude, on peut dire que cette femme connaissait Jésus, au moins de réputation. Avant, d'ailleurs, la scène que nous venons de lire. Mais ce qu'on peut se demander, c'est comment elle est parvenue à cette foi, cette grande foi, car elle est étrangère. Cananéenne, qui est un peuple ennemi de Dieu, des Juifs. En plus, elle est païenne. Elle vit donc éloignée du Seigneur. Elle ne fait pas partie des élus du peuple choisi. Elle n'a pas eu le privilège de demeurer au milieu des Juifs, comme certains païens, qui se convertirent au Seigneur d'ailleurs, tels Zachée ou le centenier, et bien d'autres. Non, elle n'a pu le connaître qu'au travers des échos lointains sur les discours qu'elle a tenus et des miracles qu'il a opérés parmi son peuple. Également, elle a dû retenir certains propos rapportés par des témoins qui, eux, ont écouté l'enseignement de Jésus avec ses promesses. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Des témoins aussi qui ont assisté aux guérisons miraculeuses, à la multiplication des pains. Elle a d'ailleurs retenu les différentes affirmations. Il est vraiment le prophète. C'est bien lui le Christ. Ou encore, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que celui-ci? Et surtout, jamais un homme n'a parlé comme lui. Alors toutes ces choses ont été pour elle une nourriture spirituelle. Une nourriture spirituelle dont elle s'est forgée une certitude qui lui donne toutes les assurances et lui permettant de franchir bien des obstacles. On peut d'ailleurs faire un parallèle avec l'attitude de Nicodème. Souvenez-vous, lorsqu'il dit « Rabbi », quand il vient trouver Jésus la nuit, il lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. » Donc Nicodème, pourtant pharisien, était convaincu que Jésus venait de Dieu. Donc la Cananéenne a fait le même chemin. Et ce qui est remarquable chez cette Cananéenne, c'est que les lumières dont elle a bénéficié pour forger sa foi étaient faibles par rapport à celles que nous avons, nous, actuellement à notre disposition. Nous sommes de ceux qui ont reçu beaucoup de lumière, qui ont beaucoup de lumière. Nous avons la croix qu'elle n'avait pas, la résurrection, le Saint-Esprit, la bonne nouvelle, les évangiles, les épîtres. Alors, sommes-nous de ceux qui ont beaucoup de foi, on va dire autant que la Cananéenne? Car si nous nous plaignons du manque de ressources ou de preuves pour croire, cette Cananéenne se lèvera en témoignage contre nous. Revenons à notre récit et à cette mère angoissée et à son chemin douloureux. Ainsi, cette femme païenne, mais pieuse, n'attend la guérison de sa fille que de la miséricorde du Seigneur. Elle a sûrement tout essayé jusqu'à maintenant, consulté beaucoup de médecins, donné à sa fille tous les remèdes connus à l'époque, mais sans résultat. Elle savait que son seul espoir était Jésus, son ultime recours. Aussi, elle était attentive à tout ce qui venait de lui et tout ce qu'elle apprenait de lui, ce qu'il faisait, où il allait, où il était, ce qu'il disait. Alors, sachant qu'il est arrivé dans cette maison, elle court vers lui. D'abord parce qu'elle sait, inconsciemment, que c'est aujourd'hui le jour favorable, puisqu'il est venu jusqu'ici. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi Jésus se retire dans cette région de Tyr et de Sidon, qui n'est pas en terre d'Israël. Peut-être veut-il s'éloigner pour un temps de la présence des scribes et des pharisiens qui étaient venus de Jérusalem pour le consulter, pour le questionner, mais aussi pour le contester. Mais peut-être aussi ressent-il douloureusement le malentendu dramatique de l'attente des foules qui ne comprennent pas sa vraie mission. Car les foules en restent au niveau du guérisseur, du magicien. Or Jésus ne veut pas être pris pour un faiseur de miracles. De prodige. Sa mission est de se consacrer davantage à la formation de ses disciples pour qu'ils comprennent les événements qui vont se produire par la suite pendant son ministère. On peut dire aussi qu'il est indéniable que Jésus, dans son humanité, a connu, comme chacun de nous, la fatigue nerveuse et physique, et qu'il a éprouvé le besoin de calme, de repos et de prière loin de la foule. Donc, comme il vient d'avoir avec les pharisiens une confrontation assez orageuse, en effet, il leur reproche d'annuler la parole de Dieu au profit de leur tradition. Et au sujet de ce qui est pur et impur, il leur demande de comprendre que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui sort de la bouche, car cela vient du cœur. Les pharisiens sont scandalisés d'entendre ces paroles. Et en plus, Jésus constate avec tristesse que même les disciples ne comprennent pas, car Pierre lui dit « Explique-nous cette parabole ». Alors c'est peut-être tout ça, c'est peut-être un tout qui a fait que Jésus a voulu se retirer dans le calme. Et Jésus d'ailleurs, quand il donne l'explication à Pierre, il lui explique que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les vols. Mais, si nous revenons à notre récit, nous découvrons la première victoire de notre Cananéenne. Et cette victoire, c'est... elle triomphe des précautions de Jésus. Jésus voulait se cacher, voulait être à l'écart, mais elle a su le découvrir. Alors, savons-nous, comme elle, découvrir le Seigneur quand il se cache? Et savons-nous nous ouvrir un chemin jusqu'à lui dans les jours sombres, lorsqu'il nous semble que nos prières ne sont pas entendues et qu'elles n'ont pas de réponse? Cette mère angoissée a su le faire. La voilà devant Jésus, dont il est dit qu'il ne répond pas un mot. Silence terrible. Peut-être trouve-t-elle ce silence normal, car elle est femme. Et en ce temps-là, il n'était pas d'usage que les femmes s'adressent à un homme en public, et encore moins un juif. Mais il est à noter qu'en s'adressant à Jésus, elle lui dit « Seigneur, fils de David », ce qui laisse supposer aussi qu'elle connaissait les prophéties concernant le Christ. Mais malgré ce silence de Jésus, elle surmonte sa déception, car c'est l'amour pour sa fille qui la pousse en avant et qui lui donne l'énergie nécessaire pour continuer sa demande, parce qu'elle ne veut pas en rester là, elle veut le résultat. Elle en devient même plus insistante, ce qui a d'ailleurs pour effet de mettre les disciples à bout de patience. « Oh voilà, car elle crie derrière nous !» Arrêtons-nous un peu, ou un moment, sur la réaction des disciples. Ils sont indisposés, ils sont dérangés, peut-être même irrités par les supplications de cette femme païenne. Et puis, comme Jésus ne répond pas, ils se sentent encouragés dans l'idée de la renvoyer. Une femme qui crie pour demander de l'aide, cela dérange. Il faut vite s'en débarrasser, retrouver le calme. Et là, stupéfaction. Il semble que Jésus soit d'accord avec ses disciples, car il répond dans leur sens. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est une fin de non-recevoir. Aussi, que fait-elle? Surmontant son amour-propre, elle vient se prosterner devant lui, l'appelle « Seigneur » et lui demande « Secours-moi ! » Après ces échecs, on aurait compris qu'elle réagisse négativement. se disant, oui, tout ce que j'ai entendu de Jésus jusqu'à maintenant, c'est faux, parce qu'il ne répond pas. Les autres ont peut-être eu, de la chance, moi pas. Et elle aurait peut-être pu dire, je ne veux plus en entendre parler. Mais heureusement, elle n'a pas cette réaction. Elle n'a pas cet orgueil. Au contraire, elle attend, humblement, prosternée devant lui. Est-ce que enfin Jésus va lui donner satisfaction? Va-t-il changer d'attitude? La réponse qu'il donne n'en prend pas le chemin. Voilà ce qu'il dit. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Un choc. On peut imaginer ce qui a dû se passer dans la tête de cette femme en entendant cette réponse. Le texte ne le dit pas, mais pour elle, ça a dû être dramatique. Trois refus. Et quel refus ? Les petits chiens. Quel sous-entendu. Quelle distance. Bien sûr, elle savait que Jésus, en comparant les Juifs aux enfants de la famille de Dieu et les païens à des petits chiens, il ne faisait que se confirmer au langage coutumier des Juifs. Mais Jésus, lui, il voulait sûrement l'éprouver jusqu'au bout pour voir la grandeur de sa foi. Alors, si jusqu'à maintenant elle avait parlé avec son cœur de mère, en entendant les réponses, petit chien, elle commence à comprendre, ou du moins essaie de comprendre les refus de Jésus, et les accepte. Et puis elle les interprète à sa situation. Oui, elle ne fait pas partie des brebis d'Israël. Oui, elle n'a droit à rien. Oui, Seigneur, dit-elle, je suis d'accord avec toi, je ne fais pas partie de tes enfants, mais je ne veux pas prendre leur pain. Mais je me contenterai de ce qu'ils ne veulent pas, de leur superflu, de ces miettes, de ces dont ils ne se soucient même pas, puisqu'ils sont rassasiés. Moi, ces miettes, ces petites miettes, me suffiront amplement. Quelle humilité chez cette femme. Elle reconnaît sa condition, sa totale impuissance. Elle ne fait aucune réserve aux paroles de Jésus. Elle ne le contredit pas. Et on devine dans ce texte une charge émotionnelle très grande. Presque insoutenable. D'ailleurs, nos cœurs, à ce point du récit, se serrent devant cette intensité, car cette femme devait être à la limite de la résistance, de ce qu'on pouvait accepter. Qu'aurions-nous fait à sa place? Pourtant, c'est là que Jésus voulait l'amener, pas plus loin. Alors, si nous avons trouvé de la froideur dans les premières paroles de Jésus, ne doutons pas un seul instant que l'amour débordait de son cœur, car dans cette femme, il devine un cœur d'élite, par son attitude, par sa raison et l'insistance de sa demande. C'est pourquoi Jésus l'a provoquée à un saint combat, pour qu'elle découvre elle-même les motifs de sa foi. Et en même temps qu'il l'éprouve, il la fortifie. Et il va lui donner, à la fin, une réponse digne de sa fidélité. « qu'il te soit fait comme tu veux. Il est remarquable que les deux plus brillants exemples de foi rencontrés par Christ dans son ministère aient été montrés par des gentils. Celle du centenier, souvenez-vous, et celui de cette femme. Ça, c'est formidable. Que nous apprend ce récit ? Ben, que cette femme a fait une confiance totale à Jésus, en reconnaissant qu'elle n'a aucun droit, aucun mérite, et que c'est par grâce qu'elle reçoit la guérison de sa fille. Oui, tout est par grâce, et il en est de même pour nous. Car c'est aussi par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don gratuit de Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oui, même si nos prières n'obtiennent pas la réponse que nous souhaitons, nous devons établir notre foi non sur des émotions ou des sentiments, mais sur le fait historique de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ pour nos péchés. Ça, c'est la base. D'ailleurs, il est dit dans Jean, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Alors, choisissons la vie, choisissons la grâce, saisissons-la. Que ces paroles, chers amis, soient gravées à jamais dans nos cœurs. Et marchons dans notre vie de tous les jours, en reconnaissance de cet amour divin. Demandons à Dieu la grâce d'avoir la même humilité que cette Canadienne, la même confiance et la même foi. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Gloire à Dieu. Amen.